Chapitre 1. Verrières, Julien Précepteur et naissance de l'amour. Abritée par une haute montagne, la petite ville de Verrières est l'une des plus jolies de la Franche-Comté, avec ses maisons blanches et leurs toits pointus de tuiles rouges qui s'étendent sur la pente d'une colline. Le Doubs coule au-dessous de ces fortifications bâties jadis par les Espagnols, maintenant ruinées. Un torrent la traverse et actionne des scies à bois qui procurent du bien-être à la majeure partie des habitants, plus paysans que bourgeois. Mais c'est toutefois la fabrique des toiles peintes qui offre une certaine aisance générale à toute la population. En entrant dans la ville, on est étourdi par une machine très bruyante. 20 marteaux sont soulevés par une roue que le torrent fait tourner. Chacun de ces marteaux fabrique chaque jour, et grâce au travail de jeunes filles fraîches et jolies, des milliers de clous. Si un voyageur demande à qui appartient cette fabrique, on lui répond « Eh, elle est à monsieur le maire !» C'est un homme à l'air très occupé et important. Son visage, qui au premier abord est agréable, peut vite choquer à cause de son air sûr de soi, mêlé à je ne sais quoi de peu intelligent. On sait enfin que le talent de cet homme-là est de se faire payer exactement ce qu'on lui doit, et de payer lui-même le plus tard possible. Tel est le maire de Verrières, M. de Rénal. En montant la grande rue, le voyageur aperçoit une belle maison et des jardins magnifiques encadrés des collines de la Bourgogne. Cette maison appartient à M. de Rénal. Ses jardins en escalier occupent des terrains qu'il a achetés au poids d'or. Par exemple, cette scie à bois sur laquelle est écrit le nom de Sorel. Monsieur le maire a dû payer très cher le vieux Sorel afin qu'il transporte son usine, qui se trouvait là où la quatrième terrasse est en construction, ailleurs. La construction d'un mur, servant à éviter des inondations dans la promenade publique qui longe la colline, fait augmenter la réputation de Monsieur de Rénal en tant qu'administrateur, mais on le critique de tailler les platanes du cours de la fidélité, sous prétexte qu'il aime l'ombre, mais surtout parce que ces platanes ne donnent pas de revenus. Par un beau jour d'automne, Monsieur de Rénal, ultra, se promenait donnant le bras à sa femme. Tout en écoutant son mari qui parlait d'un air grave, Madame de Rénal suivait avec inquiétude les mouvements de trois petits garçons. L'aîné de 11 ans environ s'approchait trop souvent du parapet et faisait semblant d'y monter. Une voix douce appelait alors Adolphe, et l'enfant renonçait à son projet ambitieux. Monsieur de Rénal protestait contre le curé, l'abbé Chélan, parce qu'un monsieur de Paris, monsieur Appert, libéral, était venu visiter la prison et le dépôt de mendicité, mais aussi l'hôpital administré gratuitement, entre autres par lui, le maire. Et cela dans le but, au dire de monsieur Rénal, de déverser le blâme, ce qu'il ne pardonnerait jamais au curé. Madame de Rénal lui répétait timidement « Quel mal peut-il faire à ces pauvres gens ?» Il allait se fâcher quand elle jeta un cri. Le deuxième de ses fils courait sur le mur. « Je veux absolument prendre chez moi le fils Sorel, » dit Monsieur de Rénal. « Il surveillera les enfants. C'est un jeune prêtre, ou presque, un bon latiniste. Je lui donnerai 300 francs et la nourriture. J'avais des doutes car il a un cousin libéral qui lui a laissé des livres. Mais le curé m'a dit qu'il étudie la théologie. Valnod n'a pas de précepteur pour ses enfants, ajoute-t-il. Il pourrait donc nous enlever celui-ci, dit Madame de Rénal. Tu approuves donc mon projet, dit Monsieur de Rénal. Voilà qui est décidé. Ah, bon Dieu, mon cher ami, comme tu te décides vite. C'est que j'aime que les libéraux d'ici voient les enfants de Monsieur de Rénal avec leur précepteur. Cette résolution laissa Madame de Rénal pensive. C'était une femme grande, bien faite. Elle avait l'air simple et jeune, sans coquetterie. M. Valnod, le riche directeur du dépôt, un grand jeune homme effronté, lui avait fait la cour, mais sans succès, ce qui avait jeté de l'éclat sur sa vertu. Le lendemain, le maire de Verrières alla voir le père Sorel. Celui-ci l'écouta afin de découvrir les intentions de cet homme. Il était très mécontent de Julien, et c'était pour lui que M. de Rénal offrait le gage inespéré de 300 francs par an, avec la nourriture et l'habillement. M. de Rénal voulait conclure, mais Sorel dit qu'il voulait consulter son fils. Il appela Julien, qui ne répondit pas. Puis il l'aperçut, il lisait dehors, assis sur une poutre. Julien n'entendit pas la voix de son père. Un coup violent fit voler dans le ruisseau son livre. Un second lui fit perdre l'équilibre. « Paresseux ! Tu liras toujours tes maudits livres sans travailler ? Lis le soir chez le curé !» Julien avait les larmes aux yeux pour la perte de ce livre qu'il adorait, le mémorial de Sainte Hélène. « Descends, animal, que je te parle !» Faible en apparence, avec des traits réguliers mais délicats, il avait 18 ans. De grands yeux noirs exprimaient en cet instant la haine. Des cheveux châtains foncés, plantés fort bas, lui donnaient un petit front. Dès son enfance, son père avait pensé qu'il vivrait à la charge de sa famille. Alors Julien, méprisé de tous, haïssait ses frères et son père. À la maison, son père lui dit « Réponds-moi sans mentir, chien de lézard. Quand as-tu parlé à Madame de Rênal ?»« Jamais, je n'ai vu cette dame qu'à l'église. Là, je ne vois que Dieu, » répondit-il avec hypocrisie. « Va faire ton paquet, tu seras précepteur des enfants chez Monsieur de Rênal. »« Qu'aurais-je pour cela ?»« La nourriture, l'habillement et 300 francs de gage. »« Je ne veux pas être domestique. » Animal, qui te parle d'être domestique? Est-ce que je voudrais que mon fils soit domestique? Mais avec qui mangerai-je? Cette question déconcerta le vieux Sorel, qui évita de répondre et le quitta pour aller consulter ses autres fils. Il faut renoncer à tout cela, se dit Julien. Plutôt mourir. Je m'engage comme soldat. Mais alors, plus de prêtrise qui mène à tout? Le lendemain, Monsieur de Rênal fit appeler le vieux Sorel. Eh bien, il ne nous reste qu'à voir ce que vous donnerez, dit le vieux Sorel. 300 francs !» s'écria M. de Rênal indigné. « C'était votre offre, je ne le nie pas !» dit le vieux Sorel. Et par un effort de génie qui n'étonnera que ceux qui ne connaissent pas les paysans franc-comtois, il ajouta, en regardant fixement M. de Rênal, « Nous trouverons mieux ailleurs !» À ces mots, le maire fut bouleversé. Il revint cependant à lui, et après une conversation de 2 heures, où pas un mot ne fut dit au hasard, la finesse du paysan l'emporta sur la finesse de l'homme riche. Ils conclurent, pour 36 francs par mois, et Sorel se retira. Pendant ce temps, Julien, qui voulait mettre ses livres en sûreté, les porta chez un jeune marchand de bois, son ami Fouquet, qui habitait dans la haute montagne qui domine Verrières. Le père Sorel lui dit quand il reparut « Prends tes guenilles et va-t'en chez monsieur le maire !» Julien se hâta de partir, mais il jura qu'il serait utile à son hypocrisie d'aller à l'église. Tout jeune, il admirait l'état militaire. Pourtant, il annonça vouloir se faire prêtre et il apprit par cœur une Bible latine que le curé lui avait prêtée. En sortant de la magnifique église de Verrières, Julien crut voir du sang près du bénitier. C'était de l'eau bénite. Des rideaux rouges la faisaient paraître du sang. Il eut honte de sa terreur secrète. « Serais-je un lâche ?» se dit-il, pour se donner du courage. « Aux armes !» Et il marcha rapidement vers la maison de M. de Rênal. Dès qu'il en fut tout près, il fut saisi d'une invisible timidité. Madame de Rênal, le voyant, lui dit « Que voulez-vous ici, mon enfant ?»« Je viens pour être précepteur, madame, » lui dit Julien. Madame de Rênal resta interdite. Ils étaient fort près, l'un de l'autre, à se regarder. Julien n'avait jamais vu une femme avec un teint si éblouissant lui parler d'un air doux. Madame de Rênal, heureuse, osa dire à Julien « Vous ne gronderez pas trop ces enfants ?»« Moi, les gronder ?» dit Julien. « Et pourquoi ?» « Mais est-il vrai, monsieur, lui dit-elle, que vous savez le latin ?» Ces mots choquèrent l'orgueil de Julien et dissipèrent le charme dans lequel il vivait depuis un quart d'heure. « Oui, madame, lui dit-il en cherchant à prendre un air froid, aussi bien que monsieur le curé. « Quel âge avez-vous ?»« Bientôt 19 ans. »« Mon fils aîné a 11 ans, reprit madame de Rênal. « Mais quel est votre nom ?»« Julien Sorel, madame. Jamais je ne battrai vos enfants. » Et il porta la main de madame Rênal à ses lèvres. Elle fut étonnée de ce geste. Monsieur de Rênal, qui les avait entendus, arriva. Il dit à Julien « Il faut que je vous parle maintenant. » Il le fit entrer dans une pièce, ainsi que sa femme. « Monsieur le curé m'a dit que vous étiez un bon sujet. Tout le monde vous traitera ici avec honneur. Voici 36 francs pour le premier mois, mais j'exige votre parole de ne pas donner un sou de cet argent à votre père. Et mettez, monsieur, cette redingote, ajouta-t-il. Puis allons acheter des vêtements. » Julien rentra tout habillé de noir. Il fut présenté aux enfants. Je suis ici, messieurs, pour vous apprendre le latin. Voici la Sainte Bible. Je vous ferai souvent réciter des leçons. Faites-moi réciter la mienne. Adolphe, l'aîné, avait pris le livre. Ouvrez-le au hasard, continua Julien. Dites-moi le premier mot, je réciterai par cœur jusqu'à ce que vous m'arrêtiez. Adolphe ouvrit le livre. Julien récita avec la même facilité que s'il avait parlé français. Monsieur de Rênal regardait sa femme d'un air de triomphe. Et pour que rien ne manque à ce triomphe, Monsieur Valnod et le sous-préfet, curieux, entrèrent. Cette scène valut à Julien le titre de monsieur. Les domestiques eux-mêmes n'osèrent pas le lui refuser. Le soir, tout Verrières afflua chez Monsieur de Rênal pour voir la merveille. Julien répondait à tous d'un air sombre, afin de garder ses distances. Sa gloire s'étendit si rapidement dans la ville que peu de jours après, M. de Rênal, craignant qu'on ne le lui enlève, lui proposa de signer un engagement de 2 ans. « Non, monsieur, » répondit froidement Julien. « Me lier sans vous obliger, je refuse. » Ainsi, M. de Rênal lui-même le respectait. Les enfants adoraient Julien. Lui, non. Sa pensée était ailleurs. Aimé parce que son arrivée avait en quelque sorte chassé l'ennui de la maison, il fut un bon précepteur, mais il n'éprouvait que haine et horreur pour cette haute société où il était admis, à la vérité, au bas bout de la table. Élisa, la femme de chambre de M. de Rênal, n'avait pas manqué de devenir amoureuse de lui. Elle fit un héritage et alla se confesser au curé Chélan, auquel elle avoua alors son projet d'épouser Julien. Le curé en fut joyeux, mais Julien refusait l'offre de cette fille. « Prenez garde, » dit le curé à Julien. « Il faut opter, il s'agit de faire fortune dans ce monde ou dans l'autre. Allez, réfléchissez et revenez dans 3 jours. Je ne vois pas en vous l'abnégation des avantages terrestres nécessaires à un prêtre, » ajouta le curé les larmes aux yeux. Ému pour la première fois, Julien se voyait aimé. « Ah, ce bon curé Chélan vient de me prouver que je ne suis qu'un sot. » Élisa parla à Madame de Rênal de son projet de mariage avec Julien. Alors, Madame de Rênal crut qu'elle allait devenir folle. Elle tomba malade. Le soir même, pourtant, Élisa lui demanda en pleurant de pouvoir lui raconter la raison de sa tristesse. « Dites, » répondit Madame de Rênal. « Madame, monsieur de Julien me refuse. Des méchants lui auront dit du mal de moi, et il les croit. Monsieur le curé n'a pu vaincre sa résistance. » Un torrent de bonheur inonda l'âme de Madame de Rênal. Elle se demanda alors si elle avait de l'amour pour Julien. La cloche du dîner sonna. Madame de Rênal rougit quand Julien amena les enfants. Au premier beau jour du printemps, M. de Rênal s'établit avec sa famille dans sa propriété à Vergy. La vue de la campagne sembla nouvelle à Madame de Rênal. Dès le surlendemain, M. de Rênal étant retourné à la ville, Madame de Rênal entreprit des travaux dans le jardin. Cette vie active et gaie plaisait à tous. Quelques jours plus tard, étant allée à Vergy acheter du tissu pour de nouvelles robes, elle ramena une jeune cousine, Madame Derville, qui avait été sa compagne au Sacré-Cœur. Julien, de son côté, vivait en véritable enfant et se livrait au plaisir d'exister. On passait les soirées sous un tilleul près de la maison. Un soir, Julien parlait avec animation. En gesticulant, il toucha la main de Madame de Rênal, qui était appuyée sur une chaise. Cette main se retira bien vite, mais il pensa qu'il devait obtenir qu'on ne la retire pas. L'idée de ce devoir à accomplir éloigna tout plaisir de son cœur. Ses regards, le lendemain, quand il revit Madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il allait falloir se battre. Cela fit perdre la tête à Madame de Rênal. Elle ne pouvait détacher ses regards des yeux de Julien. Le fait que Madame de Derville soit là permettait à Julien de moins parler et de lire à son aise. Il abrégea les cours des enfants. Un après-midi, la présence de Madame de Rênal lui rappela son devoir. Il décida alors que ce soir-là, sa main resterait dans la sienne. La nuit vint. Il observa avec joie qu'elle serait très noire. Les deux amies se promenèrent tard. Elles jouissaient de ce temps qui, pour certaines âmes délicates, semble augmenter le plaisir d'aimer. Le lendemain, on s'assit enfin. Madame de Rênal à côté de Julien et Madame Derville près de son amie. Tendu, Julien ne trouvait rien à dire. À 9 heures, il n'avait pas encore osé. Il se dit à 10 heures précises, « J'exécuterai ce que je me suis promis de faire ou je monterai me brûler la cervelle. » Enfin, comme 10 heures sonnaient, il prit la main de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien la saisit de nouveau. Après un dernier effort pour l'ôter, cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur, car son supplice cessait, et la voix de Madame de Rênal trahissait beaucoup d'émotions. Madame Derville, fatiguée, voulut rentrer au salon. Julien resta alors en tête-à-tête avec Madame de Rênal, qui, la main dans la sienne, se laissait vivre. Le bonheur d'aimer empêcha les reproches. Le lendemain, Julien trouva la figure sévère de M. de Rênal, qui lui reprochait de ne pas s'occuper des enfants. Julien dit, assez brusquement, « J'étais malade. » « Ce jeune sot, se dit M. de Rênal, s'est fait une réputation. Le Valnod peut le prendre chez lui, ou bien il épousera Élisa. » M. de Rênal fut toutefois grossier, ce qui irrita Julien, et pour la première fois, Mme de Rênal sentit un désir de vengeance contre son mari. Au cours de la promenade, elle dit à Julien, « Mon mari ne viendra pas, il va renouveler les matelas. » Julien changea de couleur. « Sauvez-moi la vie, » dit-il à Madame de Rênal. « J'ai caché un portrait dans la paillasse de mon lit. Allez le chercher, mais je vous prie de ne pas le regarder, c'est un secret. » Madame de Rênal pâlit, mais l'amour la rendait généreuse. Une fois hors de la crainte d'être surprise par son mari, elle obéit, mais pensa avec horreur, « Julien est donc amoureux. » Julien parut, saisit la boîte sans remercier et courut dans sa chambre où il la brûla. « Le portrait de Napoléon, se disait-il, trouvé caché chez un homme si ultra et hérité. » Une heure après, il rencontra Madame de Rênal et prit sa main qu'il baisa avec sincérité. Elle rougit de bonheur, puis jalouse, repoussa Julien.